défis de chez nous.
Êtes-vous au courant de la situation socio-économique du Burundi?
La part de l'État dans le développement de ce secteur?
Et quel est le rôle du citoyen?
Suivez Défis de chez nous, le magazine socio-économique de la synergie des radios
Inzamba Agathe Kakawe, RPA Ijwi ry'Abanyagihugu et la télévision Renaissance. Défis de chez nous, rendez-vous chaque dernier jeudi du mois sur nos ondes.
C'est le dernier jeudi du mois de février, le rendez-vous du magazine Défis de chez nous, une production en synergie des radios RPA, Inzamba et Télévision Renaissance. Défis de chez nous, aujourd'hui nous parlons droits des enfants sans cesse violés au Burundi. Les chiffres de la FENADEB, Fédération Nationale des Associations engagées dans la défense des droits des enfants, font état de 1140 cas de violation des droits des enfants en 2019, 50 cas dans le seul mois de janvier 2020. L'association Focodé, elle, donne un chiffre de 30 enfants détenus dans différents cachots du pays. Parmi eux, Junior Ngandi, incarcéré avec sa mère à la prison centrale de Gitega. Dans cette émission, nous nous rendrons dans la ville de Ngozi pour rencontrer les enfants de la rue qui mènent une vie dure pour gagner leur pain quotidien. La place de ces enfants n'est plus en famille ou à l'école comme cela est analysé par le sociologue professeur Paul Nzimana qui sera l'invité de ce magazine. Défi de chez nous comme à l'accoutumée, vous serez avec Inès Gakiza, Révérien Wadikamwe et Patrick Mitawaro. Je suis à l'animation. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Dans différents centres urbains du Burundi, on y trouve des enfants en âge d'être scolarisés, mais qui mènent une vie de la rue. Certains ont été abandonnés par leurs propres parents, d'autres sont contraints par la misère qui sévit dans leur famille. Ces enfants voudraient bien quitter la rue pour aller à l'école, mais ils sont délaissés à eux-mêmes. Révérien Wazikamwe les a rencontrés dans la ville de Ngozi, c'est au nord du pays. Voici son reportage.
Mes habits que vous voyez servent également de couverture pendant la nuit. Quand il pleut, je cherche.
Nous les entretenons avec des enfants dits de la rue dans la ville d'Ngozi. Ils nous racontent les revues au quotidien, une vie désastreuse.
Je suis venu chercher la vie ici. Si je trouve un peu d'argent, j'achète un kilo de farine. Quand il pleut, souvent, je ne rentre pas. Je m'abrite devant une maison.
Je cherche de l'argent pour acheter des haricots ou des pommes de terre. Si je n'en trouve pas, je cherche simplement là où loger. Souvent, je dors dans un caniveau. Mes habits que vous voyez servent également de couverture pendant la nuit. Quand il pleut, je cherche une maison inhabitée pour m'abriter. Si on ne me chasse pas, j'y reste pendant longtemps.
Moi-même, je constate que la vie de la rue est précaire, seulement je n'ai pas le choix. Si un patron arrive, on l'aide à transporter ses biens et il nous donne 100 francs pour avoir à manger. Ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à avoir de quoi transporter. Eh bien, nous nous disons, patientons, on avait tout fait.
Ils sont entre 8 et 15 ans. Certaines organisations assurent certains besoins vitaux de ces enfants, entre autres les soins de santé ou les donner à manger.
Quand on tombe malade, nous recevons des comprimés pour pouvoir continuer notre vie.
Le malheur ne vient jamais seul, dit-on. Ces enfants sont souvent malmenés par la police ou les jeunes de la milice Monerakure pour les contraindre à regagner leurs familles respectives.
La police nous arrête et nous emprisonne pour nous contraindre à rentrer. Certains de nous viennent dans la rue par l'influence des autres, malheureusement. Je n'ai pas encore connu un tel cas. Sinon, je leur donnerai le numéro de ma mère pour expliquer pourquoi je suis dans la rue.
Ce sont les Imbonerakure qui nous menacent. Ils nous frappent pour nous décourager, mais nous n'avons pas quelque part d'autre où aller.
Ces enfants désiraient eux aussi être à l'école comme les autres, sans y parvenir.
Je veux aller à l'école. Si quelqu'un pourrait m'acheter de l'uniforme, j'irai à l'école.
Si je trouve quelqu'un pour m'aider, j'irai à l'école. J'ai étudié jusqu'en 4e année. Je désire aussi retourner à la maison et entretenir de bonnes relations avec ma marâtre. Je suis prête à faire ce qu'elle veut.
La ville de Ngozi étant une illustration dans tous les centres urbains du Burundi, on remarque que la présence de ces enfants est nombreux, restent dans leurs collines natales et ne sont pas connus. C'est tout cela qui prouve que les enfants n'ont plus leur place dans la société burundaise, contrairement à l'appellation de l'enfant par nos ancêtres qui disaient que l'enfant est l'avenir du pays, ce qui lui permettait de développer son esprit patriotique en général et de sa famille en particulier.
Oui, révérien, c'est la recrudescence des cas des enfants maltraités au Burundi. Plus de 1000 enfants en ont été victimes durant l'an 2019. Ce sont les organisations de défense des droits de l'enfant qui tirent la sonnette d'alarme. Parmi les crimes dont sont victimes les enfants au Burundi, figurent des assassinats. Inès Yakiza nous en parle.
Assassinats, infanticides, viols, maltraitances graves, trafic, enlèvement, abandon sont quelques-uns des crimes dont sont victimes les enfants au Burundi. Selon la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance, FENADEB, durant le seul mois de janvier 2020, 52 enfants des différentes provinces du pays ont été victimes de violences contre les enfants. La plupart d'entre ces enfants, d'après la FENADEB, sont âgés de moins de 13 ans. L'année dernière, cette organisation de défense des droits de l'enfant dit avoir documenté 1140 cas de violation des droits de l'enfant au Burundi. Face à cette recrudescence de la maltraitance des enfants au pays, maltraitance faite par des adultes et dans certains cas par les parents même de ces victimes, les psychologues lient la situation aux conditions dans lesquelles sont grandis ces adultes et parents d'aujourd'hui. Ayant grandi dans une crise sociopolitique sous statut de réfugié pour certains et d'autres ayant assisté à des scènes de violence, la plupart n'ont plus d'empathie ni de pitié envers leurs enfants, précise les psychologues. Autre facteur qui explique ces violences dont sont victimes les enfants d'aujourd'hui au Burundi, ajoutent les psychologues, et d'ordre général. La société burundaise fait face à une grande diminution de la tolérance, d'où le recours à la violence, même face à de petits problèmes. À cela s'ajoute la paupérisation des Burundais, surtout du milieu rural. Malheureux et instable, les parents se défoulent sur leurs enfants, considérés comme des fardeaux, expliquent les psychologues. Cette situation n'est pas sans conséquence, alerte les psychologues. Ces enfants victimes développent des symptômes psychotraumatiques et adoptent plus tard des comportements bizarres. Ils risquent dans l'avenir d'infliger de telles violences une fois adultes et parents.
Eh bien Inès, la justice est loin d'être un organe de protection des droits de l'enfant au Burundi. Dans certaines circonstances, elle participe en tant qu'auteur de ces violences dont les enfants sont victimes. Nadege Irakoze revient sur le cas de Junior Nganji.
Après avoir découvert ces armes, ne me retrouvant pas, ils ont arrêté ma femme et mon enfant, Junior Nganjiimana.
C'est le père d'Onganjiimana Junior, âgé de 2 ans, en détention avec sa mère depuis 6 mois. Cette dernière a été appréhendée par la police qui n'avait pas retrouvé le chef de ménage. Celui-là a été contraint à l'exil car persécuté pour des raisons politiques. Nganjiimana Junior n'est pas le seul enfant actuellement en détention au Burundi. Pacifique Nina Azgwe, défenseur burundais des droits de l'homme, parle d'une 30aine de nourrissons se trouvant actuellement sous les verrous.
Nous avons reçu des informations sur la présence dans les prisons burundaises d'au moins 34 nourrissons qui sont là avec leur maman en détention. L'information que nous avons reçue de sources officielles est que les prisons burundaises ne prévoient pas de faciliter pour la présence des bébés dans les prisons. Alors, quand je parle de prison, il s'agit de ces grands lieux de détention, mais il faut savoir qu'il s'ajoute à cela des cachots dans les communes et dans plusieurs niveaux administratifs, où là aussi, il y a des femmes qui sont détenues avec leurs enfants. Et ce qui n'est pas prévu dans les grandes prisons n'est pas justement prévu dans les petits cachots.
Ces enfants sont injustement traités par les instances du pays qui devaient veiller à leur bien-être. En plus d'être privés de leur liberté, ces nourrissons vivent dans de mauvaises conditions.
Les prisons ne prévoient pas de suppléments alimentaires pour les bébés. La même nourriture qui est servie aux grandes personnes détenues, c'est la même nourriture qui est servie aux bébés. À cause de cette situation, nous avons appris qu'il y aurait un certain nombre de nourrissons qui souffriraient de kwashiorkor parce qu'il n'y a pas de nutrition adéquate à leur âge. Ceci est extrêmement grave. Nous soulignons que cela est en même temps une violation grave des droits des enfants.
Pacifique Ninina Hazgwe interpelle les autorités burundaises à se ressaisir, rappelant que la place des enfants à venir du pays n'est pas dans la prison.
Le milieu carcéral n'est pas fait pour les enfants. Les enfants ne devraient pas vivre, grandir dans des prisons.
L'invité.
Oui, professeur Paul Mondimana, bonjour.
Bonjour.
Oui, on parle droit des enfants au Burundi. S'observe des cas flagrants qui sont bafoués. Et pourquoi effectivement aujourd'hui les chiffres sont exagérés?
Je pense qu'il faut analyser la situation dans un contexte général. Tout le monde sait bien que dans la société telle qu'elle existait avant la pénétration des rapports marchands, par exemple dans un pays comme le Burundi, d'abord on avait toujours considéré que l'enfant était un bien commun, un bien appartenant à tous, puisque bon, la société était caractérisée par la solidarité. Bon, maintenant, bien entendu, comme les rapports marchands ont pénétré dans ce pays dans une période particulière, tous les droits démocratiques qui sont aujourd'hui détruits, tout ça, c'est un fait des droits des enfants. Donc, bien entendu, les droits des enfants ne sont pas, un domaine séparé. C'est un domaine qui concerne les droits démocratiques d'une manière générale. Donc, bien entendu, si au niveau de la société, l'intérêt ne peut pas reconnaître, disons, l'existence des libertés et des droits, bien entendu, les enfants, y compris, sont concernés.
Oui, professeur, revenons sur le cas de cet enfant qui a été incarcéré en même temps que sa maman, un cas qui a soulevé beaucoup de polémiques, qui a fait la chronique des médias. En quoi est-ce que cet enfant incarcéré avec sa maman a quelque chose à voir avec ce rapport Macha dont vous parlez?
Non, ça veut dire que la société, en fait, a été déstructurée. Parce que, bon, traditionnellement, c'est-à-dire avant la pénétration du rapport marchand, comme je le disais à l'instant, l'enfant était la propriété de tous. Mais non, évidemment, il ne s'agit pas d'un cas séparé. C'est un cas qui s'inscrit dans le cadre global où il n'est plus reconnu que la place de l'enfant se trouve dans la famille, ou en tout cas, bon, dans une institution quelconque, une institution de prise en charge, puisque la famille est, bon, en fait, et la première institution par excellence de prise en charge de l'enfant. C'est-à-dire que bon, le problème, évidemment, il se supposait, c'est que on ne reconnaît pas. C'est-à-dire que les rapports marchands, les rapports qui sont directement liés à la Banque mondiale, aux investissements de la Banque mondiale, des FMI, de l'Union européenne et des puissances, y compris la Chine et la Russie. On ne reconnaît pas l'existence de ces libertés. On ne peut pas reconnaître l'existence de ce type d'institution comme la famille, qui avait été, en fait, creusé le centre même de la socialisation de l'enfant. Ça dit que la famille elle-même, aujourd'hui, se trouve disloquée. Donc, il ne s'agit pas du cas spécifique de cet enfant-là qui est incarcéré avec sa mère. Il s'agit, en fait, de ce cas et l'illustration d'une situation générale où les libertés, dans leur ensemble, ne sont pas reconnues dans la société. Ce sont liberté d'expression, liberté de presse, liberté de manifestation, liberté d'opinion, etc. Donc, en fait, ce cas-là est l'illustration d'une situation générale de la remise en cause des libertés dans leur ensemble.
Oui, professeur, donc, mais vous évoquez les pays comme les États-Unis, la France, l'Union européenne, les pays qui sont des capitalistes, effectivement, mais qui font prévaloir les droits des enfants aujourd'hui. Et pourquoi pas au Burundi?
Bon, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes en présence de deux situations. parce que même si le terrorisme est une réalité mondiale, en fait, on est en présence de deux situations où vous avez d'une part des pays capitalistes ou bien des pays impérialistes, bon, la France, les États-Unis, l'OTAN, tout ce qu'on veut, etc., etc., avec leurs institutions, institutions financières internationales, banques mondiales, FMI, Union européenne. Il y a d'autres côtés, mais moi, les pays capitalistes arriérés, pays capitalistes donc dominés. C'est-à-dire que les pays capitalistes impérialistes ne peuvent pas supporter que dans les pays arriérés, il puisse y avoir un brin de liberté. C'est-à-dire que ce que ces pays ont construit chez eux ne peut pas être accepté dans les pays capitalistes arriérés.
Oui, effectivement, donc, quelle solution aujourd'hui proposez-vous, effectivement, pour que le Burundi puisse faire prévaloir les droits des enfants, effectivement?
Bon, les droits des enfants sont indissolublement liés aux droits démocratiques de manière générale au niveau de la société. C'est-à-dire que les droits démocratiques et les droits sociaux ne sont jamais respectés à partir du moment où les chefs de pays se trouvent sous la domination des puissances des multinationales.
Donc les droits des enfants sont aujourd'hui loin d'être une réalité au Burundi, selon vous?
Donc les droits des enfants, comme les droits démocratiques, les droits sociaux d'une manière générale, ces droits ne peuvent pas être acceptés par l'Union européenne, ne peut pas être accepté par la Banque mondiale, ne peut pas être accepté par la Russie, la Chine et le Fonds monétaire international.
Professeur Paul Nzimana, je vous remercie.
Je vous en prie.
Eh bien voilà, c'était la professeur Paul Nzimana, l'invité de ce magazine Défi de chez nous. Bien merci pour sa disponibilité et son analyse pour la protection des droits des enfants burundais. Merci à toute l'équipe Inès Gakiza, Nadezi Lakoze et Révérien Razikamwe. Et à vous, chers auditeurs qui nous avez suivis, pour ce rendez-vous de ce magazine mensuel. Ce sera le 26 mars prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine.
C'était le magazine Défi de chez nous, produit par la Synergie des médias
RPA, Izwiya Wanyagihugu, Inzamba, Agathe Kakawi et la télévision Renaissance.
Pour vos avis et suggestions, envoyez vos messages sur le numéro WhatsApp
+254 71 60 38 506. Défi de chez nous.